l'honneur que vous me faites de m'inviter comme discutant. Donc, la démarche de Nicolas Douay est partagée par un certain nombre aujourd'hui de chercheurs et d'observateurs sur cette question de la Smart City, qui consiste à essayer de lui donner un cadre d'intelligibilité globale ou partielle pour dépasser les effets de sidération qui lui conduisent soit à un discours prophétique, soit à une position de retrait complètement critique. Alors, en même temps, je suis invité comme discutant, donc je vais discuter certains points de ta proposition. En tout cas, je trouve que les éclairages que tu portes sont intéressants et devraient inviter aujourd'hui, mais pour tous ceux qui sont là sont convaincus, devraient inviter des chercheurs en sciences sociales à sortir un petit peu de la caverne épistémologique, méthodologique, même en termes de champ dans laquelle ils sont, pour aller justement s'intéresser de plus près à ce qui se joue sur cette Smart City, aller au-delà de ces incursions-là, parce que dans ce domaine-là, il y a une prime en termes de connaissances à ceux qui font. Donc je m'adresse aussi aux étudiants, c'est-à-dire qu'il faut aller traîner sur les salons, il faut aller rentrer dans les entreprises, regarder ce qui se produit, parce qu'une partie de ce que tu as dit, Nicolas, est à la fois juste, et en même temps, j'avais envie de réagir en disant, mais ça, on sait, ça se dépasse, aujourd'hui, les entreprises sont bien au-delà de ça. Je prends juste un exemple, et en fait, nos savoirs, le tien comme le mien, est très très vite obsolète dans ce domaine-là. Ce que fait Dassault Systèmes à Rennes, ce qu'il a fait à Singapour, aujourd'hui, enfin, depuis 2-3 ans, je fréquente des gens pour qui c'est quelque chose de dépassé. On sait que ce n'est pas ça qu'il faut faire, que ça ne fonctionne pas. Quand je dis que ce n'est pas ça qu'il faut faire, c'est du point de vue de l'efficacité des instruments qu'ils mettent en place dans une logique entrepreneuriale, industrielle et même aménagiste. Et donc, première remarque que j'ai envie de faire, c'est que aujourd'hui, la Smart City se déploie à travers divers instruments et finalement, tous, tu as commencé à le dire, n'ont pas la même finalité, tous ne s'inscrivent pas dans la même rationalité, et la Smart City, ça n'est pas la maquette numérique. Et ça n'est pas l'addition de la maquette numérique et de l'AI administration. C'est autre chose. Ça les intègre en partie, mais, alors moi, c'est l'analyse que j'en fais, elle vaut pas plus et pas moins que n'importe quel autre, ça s'inscrit dans un nouveau régime d'optimisation des services, des fonctionnalités urbaines, dans le cadre d'une ville, bien sûr, à la fois publique et libéralisée. Et donc, moi, j'insisterai sur, finalement, sur ces outils, je trouve que tu mets la question des plateformes au centre, et là je te rejoins là-dessus, mais du coup je ne sais pas très très bien ce que tu mets derrière le mot plateforme. Pour moi, une plateforme, c'est un dispositif à la fois numérique, social et économique qui va permettre de commodifier un certain nombre d'activités, d'objets, les transformer soit en service, soit en bien marchand, sans que l'opérateur qui procède à cette transformation soit lui-même propriétaire des infrastructures, des services ou des objets qui vont être vendus. Et les usagers, les consommateurs de ces services vont pouvoir être aussi les producteurs de ces services-là. Pour moi, c'est ça une plateforme. Et partant de là, tout n'est pas plateforme, ou en tout cas, il en existe de différents types. Donc, première chose. Deuxième chose, Sophie a introduit la journée en parlant de la question de la transition. Il me semble qu'aujourd'hui, la Smart City s'inscrit de manière prioritaire dans la transformation de la ville des réseaux. C'est-à-dire que Facebook, ce n'est pas la Smart City. Le cyberespace, ce n'est pas la Smart City. Il y a aujourd'hui les offres originelles d'IBM ou de Cisco, qui sont aujourd'hui largement dépassées par des offres partielles, s'inscrivent dans des formes d'optimisation de la vie des réseaux qui soit la confortent, soit la dépassent et la ruinent, en quelque sorte. Je donne un exemple très rapide sur les smart grids. Les smart grids, ce n'est pas simplement une couche d'IT rajoutée au réseau d'électricité, c'est aussi un système de commande-contrôle qui va permettre un équilibrage du système électrique, non plus à travers un ajustement par l'offre. Avant, quand il y avait des pics de consommation journaliers ou saisonniers, eh bien, on déployait des moyens de production, on déclenchait des moyens de production adéquats, on relançait une centrale à charbon ou une turbine d'un lac de montagne. Aujourd'hui, l'équilibrage, il se fait par les usages. On va effacer la pointe, la déplacer, faire de l'effacement. Et vous prenez les parkings connectés aujourd'hui, il me semble que c'est pas simplement une nouvelle offre de service à des particuliers, c'est pas une nouvelle valorisation du parking, ça l'est bien évidemment, c'est aussi une manière de ne pas avoir à réinvestir pour avoir des parkings plus importants. Ça permet de retirer plus rapidement des véhicules de la chaussée et donc de ne pas réinvestir sur la voirie plus large. Et en quelque sorte, cette offre de Smart City, à l'intention des collectivités territoriales, semble participer à une promesse de transition écologique, puisque eh bien, on consommerait moins de matériaux et on aurait des investissements moins capitalistiques, en tout cas moins d'intensité capitalistique. Il me semble que cette dimension ville des réseaux de la Smart City, même si elle n'épuise pas le sujet, est importante à avoir à l'esprit. Deux derniers petits points rapides. Tu as insisté, à juste titre, à mon sens, sur les logiques non seulement marchandes, mais sur l'extension en fait, du domaine de la néolibéralisation des villes à travers la Smart City. Il me semble qu'il y a un point particulier qui est le passage de politiques tarifaires pour les services urbains à une gestion sous forme de pricing dynamique, et là qui est plutôt dans une perspective, on va dire, public-privé ou privé-public, c'est-à-dire le pricing dynamique, c'est envoyer des signaux prix aux usagers de façon à ce qu'ils adaptent leur comportement aux exigences de la collectivité ou parfois aux exigences tout simplement du trafic, de la consommation. On va renchérir les prix sur des modèles soit de plancher, soit de plafond, c'est-à-dire que passer un certain niveau de consommation d'eau, d'électricité, etc., on paye plus cher, ou passer certaines heures, on va avoir des coûts d'utilisation des infrastructures de transport plus élevées. Et puis ça s'inscrit aussi dans une politique de yield management qui est alors beaucoup plus gestionnaire et marchande, à savoir on va optimiser les places ou la taille des réseaux ou l'intensité d'usage des services à travers des prix qui vont permettre de les rendre attractifs aux heures les plus creuses et plus coûteux aux heures de saturation. Donc on est aussi dans une régulation temporelle de la ville. Dernier point de discussion, tu as parlé de cartes et d'algorithmes, et pour moi la raison cartographique et la raison algorithmique sont à distinguer. Comment dire ça? Quand on est usager de la ville, pour s'y repérer, à partir du moment où on n'a pas une expérience sensible directement, on a des instruments dont on a appris l'usage, qui sont des instruments de représentation. La carte n'est pas le territoire, mais permet de s'y repérer. On y déploie une compétence visuelle, cognitive, pratique. Ça n'est pas parce que les instruments digitaux de la Smart City recourent beaucoup à la visualisation de l'espace qu'il y aurait finalement assimilation entre les algorithmes qui sont derrière la production de ces cartes et la raison cartographique. Puisqu'on se retrouve en tant qu'usager de la ville, embarqué aussi dans des formes, on va dire, de logique algorithmique. Vous prenez par exemple un GPS de véhicule, la la représentation de la route est moins importante, parce qu'il n'y a pas directement au repérage, que finalement le support qu'elle constitue pour une série d'instructions. Un point, troisième à droite. Des instructions classiques d'algorithmes menés sur les opérateurs booléens, les plus basiques. Et du coup, il y aurait peut-être deux niveaux de lecture à avoir de la question des algorithmes aujourd'hui dans la ville intelligente. Celle de la constitution d'une boîte noire derrière les instruments traditionnels qu'on utilisait en conception, en planification. Pourquoi telle taille d'ouvrant ou telle épaisseur de mur ou tel dimensionnement de voirie qui est proposé par l'algorithme ou par ce code. Et effectivement, il y a une dimension complètement normative à cet outil, code ISO. Mais il y a aussi un second registre, c'est notre embarquement algorithmique à travers aujourd'hui des services qui opèrent de moins en moins par finalement une offre de choix à travers une cartographie qui nous permettrait de nous repérer, et plutôt à travers une série d'instructions algorithmiques. Voilà un petit peu voilà les réactions à chaud des discussions que je voulais avoir par rapport à ton intervention.
Merci beaucoup. Alors, j'ai noté plein de choses. Moi, mon propos, il n'était pas tout à fait sur la Smart City, mais plutôt sur les usages numériques dans la pratique de la planification, parce que justement, je voulais me détacher un petit peu de l'objet trop techno, pour me centrer sur les usages. Mais c'est évident que si on est sur la Smart City, c'est pas l'addition de couches différentes comme de la maquette du numérique ou de l'open data et de ligne administration et puis des plateformes de type Airbnb ou Uber. Moi, je voulais juste en fait finalement mettre en avant des points saillants de transformation qui sont peut-être finalement des phénomènes pas si marquants, mais en tout cas des transformations importantes liées au numérique, mais peut-être qu'elle ne bouscule pas complètement, pas fondamentalement les rapports de pouvoir dans la production de la ville. Mais c'est évident en fait qu'on a des phénomènes différents, même parfois concurrents, ou pas forcément toujours bien complémentaires. Alors oui, j'ai mis la plateforme au centre, avec en effet un dispositif qu'à la fois... moi je pense que la plateforme pour moi c'est un dispositif qui est à la fois technique, mais aussi social, donc qui est approprié. Et qui est aussi économique, donc tu n'as pas noté la dimension politique, institutionnelle, mais pour moi il me semble qu'elle aussi est un petit peu incontournable, et que finalement on va avoir des plateformes qui vont, à mon sens, en fait, différer en fonction des acteurs qui sont derrière et des types d'usages qu'on va pouvoir y associer. Et donc parfois on va avoir affaire à des usagers, parfois à des citoyens, parfois à des gens qui ne vont même pas forcément faire le choix d'avoir recours à la plateforme, mais qui vont quand même d'une manière ou d'une autre donner des informations aux propriétaires de la plateforme. Mais en effet la plateforme me semble centrale, et en tout cas après, pour appréhender cette transformation, il faut bien délimiter finalement ce qui relève ou pas champ numérique, et moi il me semble que la plateforme c'est intéressant de centrer le propos dessus. Après, tu as eu un propos sur la transition, donc c'est sûr que le numérique s'inscrit dans une transition et dans plusieurs transitions en fait. Et donc on voit bien, et comme le rappelait Elisabeth et Sophie ce matin, on est embarqué, en tout cas les villes sont embarquées dans différents types de transformations, de transitions, et le numérique va se retrouver à la fois dans des transitions qui renvoient au développement durable, ou à la participation, ou à la résilience. Donc il me semble que c'est un des intérêts. Et après, oui, le propos sur l'algorithme, il est intéressant, parce qu'en effet, on va retrouver de l'algorithme un peu partout, et dans des types de plateformes très différentes, publiques, privées, à usage marchand, non marchand. Et en effet, il faut différencier l'algorithme qui est autour de services embarqués pour se géolocaliser ou avoir des services personnels en tant qu'usager, en tant qu'urbain dans la ville. Mais moi, j'ai un intérêt plus personnel autour du recours à ces plateformes techniques, donc qu'on désigne comme étant des algorithmes ou de l'intelligence artificielle, je ne sais pas. Mais en tout cas, sur ce que tu as désigné comme étant de la boîte noire sur la conception, sur la gestion. Et donc on voit bien en fait qu'aujourd'hui il y a plein de discussions qu'on peut avoir collectivement sur ce qu'on fait de l'aménagement. Donc voilà, la discussion sur les valeurs, sur les intérêts qui font des choix d'aménagement. Qui, fondamentalement, c'est ça, on préfère de l'aménagement que de la planification. Et donc on voit que ce qu'on pouvait faire aujourd'hui va peut-être pouvoir être réalisé par des systèmes technologiques qui vont pouvoir peut-être nous donner des réponses toutes faites en termes de ce que tu nous disais sur la taille de la voirie ou la hauteur des immeubles ou la forme de la densité. Et donc on voit bien qu'en fait une partie de ces débats qui doivent relever, en tout cas qui peuvent relever d'une forme de débat public, pourrait être proposée par un algorithme, une plateforme technique. Donc moi je vois presque une sorte de retour de la grille d'équipement qu'on pouvait utiliser au sortir de la Seconde Guerre mondiale lorsqu'on faisait des zones urbanisées en priorité. On se disait, tant d'habitants, je fais 2 écoles, on en rajoute quelques milliers, je fais un collège, on en rajoute 20 000, je fais un lycée. Et donc le retour à une forme un petit peu mécanique de décision dans la conception, dans la gestion de la ville. Même si, bien sûr, que la grille d'équipement, on pouvait la discuter en fonction de critères, et donc, pareil, l'algorithme, on peut aussi le nourrir. Et on voit bien que derrière l'algorithme, derrière toutes ces formes de régulation technique, il y a un enjeu d'ouverture des données et de discussion de la façon dont l'algorithme est ouvert. Donc, on a vu le débat sur APB, post-bac ou Parcoursup. On voit bien qu'il y a un enjeu politique derrière ces formes de régulation.
Je ne vais pas monopoliser les paroles, mais je voulais juste apporter un point d'éclaircissement sur cette question-là. Là aussi, je distinguerai deux choses. Déjà, c'est vrai que mon sujet, c'est plutôt la Smart City que la question de l'aménagement par le numérique. Il me semble qu'on se précipite un peu vite sur le big data. C'est-à-dire que l'information de la Smart City, elle existe sous deux modalités. La modalité du signal, ce qui va permettre la régulation de la ville et ses services en temps réel, et la modalité de la trace, c'est-à-dire signal conservé, et qui, parce qu'il est systématique et massif, va constituer des bases de données énormes, le big data. On a des algorithmes qui vont être documentés, alimentés par le big data, et on a des modèles de prévision, de prédiction, qui sont alimentés par cette data-là. Et en matière d'aménagement, ça a deux conséquences. Il y a effectivement la conséquence que tu décris, c'est-à-dire aujourd'hui, la possibilité de disposer d'outils qui vont revenir à une rationalité très fonctionnaliste et technicienne de l'aménagement de la grille. Mais on a aussi, par cette première modalité de l'ajustement en temps réel de la ville, de nouvelles questions d'aménagement qui se posent, c'est-à-dire que, mais de manière très concrète, c'est-à-dire que est-ce que je fais un parking de 500 mètres carrés ou est-ce que j'en fais un de taille beaucoup moindre, parce que je sais qu'aujourd'hui, par les effets de foisonnement, je peux répondre aux besoins de stationnement avec un nombre de mètres carrés moindre. Et on pourrait trouver la même chose pour des tas d'autres équipements qui aujourd'hui peuvent être optimisés, concentrés, grâce à une meilleure allocation dans le temps de ces espaces-là. Et cette meilleure allocation, elle se fait de façon extrêmement fluide, soit parce qu'elles sont informées en temps réel, soit parce que les usagers y accèdent grâce à des interfaces mobiles, embarquées, immédiatement mobilisables, que sont les smartphones. Et donc c'est une question qui se pose aujourd'hui concrètement aux aménageurs. Voilà,
Bonjour, Nicolas Ozolo, je suis doctorant à Paris 8. J'ai une question concernant les entreprises de cartographie qui font des cartes foncières, qui récupèrent des données publiques et qui font des cartes à destination de grands groupes immobiliers comme Nexity, CAD ou Bouygues Immobilier. Et du coup, est-ce que vous avez dans vos travaux pressenti les formes urbaines que ça pouvait... qui pouvait être créé suite à l'utilisation massive de ce type de cartes qui, du coup, dans leur visualisation, donc ce sont des entreprises de type start-up qui utilisent les données pour faire ces cartes. Et du coup, donc, sur leurs cartes, il y a par addition, sélection ou omission, il y a plusieurs vérités du territoire qui sont énoncées par plusieurs couches sociales, économiques, culturelles et de toutes sortes. Et du coup, donc, ce sont des vérités qui sont à chaque fois performatives. Et du coup, est-ce que ça va juste créer une continuité avec un modèle classique d'investissement des grands promoteurs, ou où ça va créer de nouveaux modèles d'investissement dans les grandes villes, dans les grandes métropoles, et de nouvelles formes urbaines, de nouvelles dynamiques urbaines, notamment pour les habitants, pour l'habitat.
On va peut-être regrouper les questions, parce que sinon on n'aura jamais le temps. Hein.
Bonjour, Jérémy Molo. Alors j'avais une question pour savoir si vous avez également des approches critiques qui émergent aussi concernant le volet ouvert que vous avez développé. Donc, parce que vous avez d'un côté deux catégories plutôt fermées pour lesquelles vous avez des critiques assez claires, à la fois pour la dimension technocratique et la dimension commerciale. Et ensuite la dimension ouverte, on a l'impression qu'il y a moins de critiques. Alors que de manière assez générale concernant, alors pas forcément la Smart City, mais en tout cas de manière assez générale concernant le numérique, il y a de plus en plus de critiques suite à une phase un peu optimiste qu'on a pu avoir dans les années 2000 vis-à-vis du numérique, vis-à-vis notamment de la possibilité de traitement de données personnelles, vis-à-vis de la manipulation de l'information, des fake news. Donc ça, c'est pas forcément des choses qui touchent directement la Smart City, mais qui sont quand même des sources de critiques qui émergent vis-à-vis du numérique et qui sont susceptibles de pouvoir toucher la Smart City. Notamment, en fait, on peut voir qu'il y a des cas de figure dans lesquels on peut avoir des initiatives qui apparaissent comme être en faveur de la participation, mais s'avèrent être aussi des méthodes de contrôle de l'information. Enfin, notamment, bon, ça, c'est quelque chose qui me semble assez clair dans des initiatives, notamment en Chine, qui sont assez dynamiques par rapport à la Smart City, mais qui ont aussi une dimension peut-être un peu plus négative. Et puis ensuite, il y a aussi la question qui se pose vis-à-vis de la pénétration, la représentativité d'initiatives qui apparaissent très progressistes et très ouvertes. Voilà, je me demande si vous avez aussi des éléments de critique qui émergent vis-à-vis de la dimension ouverte de ces approches.
Oui, bonjour, Dominique Thail. Donc je vais retourner à la caverne et à la massue la distinction pratique-usage. Vous avez décrit, je trouve que vous avez surtout décrit des interfaces et donc des outils. Il faudrait peut-être s'intéresser à l'histoire des pratiques, notamment ce que font les gens, notamment d'une part la profession des architectes. Il y a eu une révolution, on est passé du dessin à la pochette numérique, aux outils 3D, etc. D'autre part, les administrations, où il y a eu aussi la transition micro-informatique qui s'est fait, j'ai pas très bien suivi, mais il me semble que ça s'est fait notamment dans la douleur et à marche forcée à une certaine époque. Et enfin, la révolution qui est la micro-informatique chez les ménages, et surtout l'ascension du téléphone portable qui a été beaucoup plus rapide que prévu initialement. Et donc j'oublie sûrement d'autres histoires, mais il me semble que du coup ça permet un peu de relativiser toutes ces histoires d'interface. Et que on n'a peut-être pas les mêmes, comment dire, les mêmes enjeux et les mêmes capacités d'appropriation derrière tout ça. Et enfin, parce que vous parlez beaucoup d'ingénieurs, mais il me semble qu'à une époque, et je crois que ça continue encore, dans le numérique, comme on manquait beaucoup plus d'offres de postes que finalement de candidats. Dans les années 2000, par exemple, on recrutait beaucoup de géographes. Il y a beaucoup de géographes qui sont devenus programmeurs. Et je me demande si ça ne laisse pas des traces. Parce que vous parlez de la figure d'ingénieur, mais derrière tout ça, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne viennent pas du tout de l'ingénierie Et ce serait d'être intéressant de savoir qu'est-ce que ça donne justement dans toutes ces propositions après qui viennent ces gens qui justement étaient géographes, ou c'était même sociologues ou d'autres formations régionales qui ont forcément des idées, qui sont peut-être lancées dans les startups, etc. Voilà.
Tu commences à répondre.
Il faut être très rapide parce que sinon on n'aura pas le temps. Hein.
Merci. Merci beaucoup. Donc, je vais essayer de répondre rapidement, mais sur la première question, donc c'est vrai qu'il y a beaucoup d'outils qui sont développés par des startups, par des groupes plus ou moins importants, qui à chaque fois font un travail impressionnant en fait, hein, de visualisation de toutes les normes du PLU et de tout autre, de beaucoup d'autres de réglementations. Donc c'est vrai que ça permet de visualiser beaucoup plus rapidement une série de normes et l'impact sur la forme urbaine potentielle. Donc ce travail-là, il était très compliqué, très dur. Et donc moi, j'ai pas la réponse à votre question, hein, mais j'ai l'intuition que pour des groupes comme Next City, même avant le numérique, ils étaient capables de lire correctement un plan d'urbanisme pour trouver les bonnes parcelles et pour trouver les bons terrains pour faire les bonnes opérations de défiscalisation du type du flow Pinel et de faire la forme urbaine classique qu'on voit dans nos grandes villes, dans nos métropoles importantes. Et donc ça, je pense qu'en fait, ils vont continuer. Après, par contre, l'hypothèse qu'on peut faire, c'est que peut-être que pour des petits propriétaires, donc petits propriétaires, des petits investisseurs qui ont un immeuble, deux immeubles, ou même pour des propriétaires individuels qui ont juste un logement, une résidence principale, ça permettra peut-être de visualiser beaucoup plus facilement quels sont les potentiels d'extension. Et donc on pourrait imaginer que ça soit à la base d'un modèle de densification, d'appropriation de tissus urbains traditionnels. Donc en dehors des grandes opérations immobilières qu'on peut voir classiquement. Mais c'est intéressant, moi je connais des opérateurs HLM hein, qui passent aussi à ce type de visualisation pour essayer d'avoir une vision plus dynamique de leur potentiel d'extension urbaine qu'on sert sur leur immobilier, sur leur terrain. Après, la deuxième question qui porte sur les approches critiques sur le volet ouvert, c'est vrai que je l'ai pas forcément très développé parce que c'est peut-être pas la partie la plus originale de mon travail, mais en tout cas on retrouve toutes les critiques traditionnelles sur les rapports de pouvoir dans la participation. Et donc bah, en effet tous ces dispositifs, qu'ils soient numériques ou pas, ils peuvent être instrumentalisés, détournés. Donc à chaque fois, je pense qu'il y a vraiment un enjeu de design de ces dispositifs, et donc de savoir ce qu'on met sur la table, ce qu'on délègue. Et donc là, pour le coup, le dispositif technique, il est important pour savoir comment les gens s'expriment, comment ils prennent la parole, sur quoi, sur quels enjeux, avec quel budget. Donc c'est vrai que quand on voit le budget participatif parisien, bah oui, il y a plein de propositions qui ne sont pas soumises au vote parce que la mairie décide que ça ne fait pas partie de l'orientation générale de la municipalité, parce que oui, ce n'est pas dans les compétences. Et parfois, ils mettent au vote des choses qu'ils ont déjà promises dans le programme électoral. Ou on peut aussi observer que dans les premières éditions, il y avait des inégalités entre les groupes sociaux qui participaient, et donc dans des arrondissements avec une forte hétérogénéité sociale, bah, comme le 18e, ce que j'ai raconté dans un article dans Netcom. Dans les premières éditions, la plupart des projets lauréats étaient dans les parties les plus riches de l'arrondissement, donc là où il y avait une capacité de mobilisation, mais en même temps on voit qu'il y a des mécanismes d'apprentissage et qu'en fonction des différentes éditions, il peut y avoir des budgets spécifiques dédiés par exemple aux quartiers populaires. Mais en tout cas, il me semble qu'on retrouve en fait les mêmes illusions, les mêmes débats que sur la participation classique, sur les inégalités, sur les rapports de pouvoir, et donc on veut même être un petit peu polémique à regarder l'actualité. On voit bien que sur le débat qui est maintenant porté par la Commission nationale du débat public sur ce qui peut répondre au mouvement des Gilets jaunes, on voit que les propositions qui apparaissent maintenant, bah, c'est les propositions classiques de l'extrême droite qui sont reprises et qui sont les plus populaires. Donc on voit aussi qu'en fait les formes innovantes de participation par le numérique bah, peuvent nous amener à revenir sur des droits fondamentaux qui avaient été acquis et qui pourrait apparaître comme étant presque anti-constitutionnel. Donc, et sur la troisième remarque, donc, retour à la distinction entre les usages. C'est vrai, en fait, qu'il faut, vous avez raison, il faut s'intéresser à la diversité des pratiques. C'est évident que le métier des architectes a été transformé dans l'administration publique, ça s'est réellement aussi transformé. Et c'est évident que quand on regarde la pratique même de l'aménagement, moi j'ai l'intuition que une partie du travail à la fois d'instruction du droit des sols et puis de définition du droit des sols, qui est quand même finalement un peu partie de la base de la production de la ville en matière d'urbanisme, pourrait se trouver un petit peu mécanisé. Donc moi j'ai l'intuition que ça peut changer une partie du sens, à la fois en termes de posture professionnelle, mais aussi dans la dimension politique du type de ville qu'on va définir. Après, j'avoue que je connais pas trop la sociologie du monde de l'informatique, mais en effet, il y a peut-être pas mal de géographes, ou en tout cas, il y a sûrement une dimension spatiale qui est assez forte en fait dans l'informatique. Et donc, quand on regarde tous les travaux de Boris Bod, notamment, il nous montre en fait cette dimension, ces différentes échelles, ces places, ces lieux qu'on va retrouver sur toute une série d'outils techniques informatiques. Mais oui, en effet, c'est la diversité, l'intensité des appropriations, des pratiques qui vont nous montrer finalement la réalité de cette transformation numérique. Parce que là, dans mon propos, c'est vrai que je mettais un petit peu le doigt sur des phénomènes qui apparaissent comme étant importants, mais peut-être que dans 5 ans, dans 10 ans, on se dira que les histoires d'optimisation des parkings, c'est bien gentil, c'est bien rigolo, mais qu'en fait, ce qui est quand même vachement important pour faire du transport en Ile-de-France, c'est de construire du RER, c'est de construire le métro du Grand Paris. Et que quand on est en train d'observer ce qui se passe dans les gares du périurbain, on a un besoin de parking qui est hyper important. Et que oui, on peut optimiser, oui, on peut mettre des trottinettes électriques et tout ça, mais le cœur du truc, ça reste le transport de masse. Ou pas, en fait, peut-être qu'on reviendra là-dessus, mais en tout cas, c'est vrai qu'on est face à des transformations qui sont importantes, mais dont on n'arrive pas forcément bien à saisir l'intensité sur le long terme et l'impact sur le long terme. Et donc c'est pour ça clairement qu'on a besoin de travaux de recherche empiriques à partir du terrain pour mesurer ce qu'il y a au-delà de la fureur, au-delà du bruit apparent. Quoi.